gratuit de la part des frères Capucins du couvent Notre-Dame de Paix et de la part des frères de toute la province de France, je vous souhaite la bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir à l'occasion de la sortie en librairie aujourd'hui même du livre du professeur Gérard Cholvy aux éditions du Cerf sur le père Marie-Benoît de Bourdiret, un fils de Saint-François, juste des nations. La parution de cet ouvrage est un événement de grande importance pour établir la vérité des faits et de l'histoire sur une des périodes les plus douloureuses du siècle dernier. Nous le savons, fils de Saint-François, érudit de haut niveau, le père Marie-Benoît a sauvé, au risque de sa vie, des Juifs pendant l'époque d'extermination. De son vivant, son humilité et sa grande discrétion nous empêchèrent de bien connaître son action, les circonstances de son engagement, les relations qu'il entretenait dans un contexte des plus difficiles. Ceux qui ont vécu avec lui dans cette maison se souviennent de sa personnalité modeste et forte, parcimonieuse en confidence. Je le soupçonne même ce soir d'avoir fait en sorte que le temps soit mauvais pour qu'il y ait moins d'auditeurs. Il fallait la compétence d'un historien de renom pour mener une enquête aussi délicate. Il fallait la patience d'un scientifique pour explorer nos archives et faire parler les témoignages. Monsieur Cholvy, je vous remercie vivement d'avoir accepté ce défi et de l'avoir mené au bout avec succès pour la plus grande joie de tous. Ce livre était vraiment attendu et réclamé. Il serait peut-être long d'évoquer ici votre longue et brillante carrière universitaire. Professeur émérite d'histoire contemporaine à l'université Paul-Valéry de Montpellier, vous êtes l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages. Qu'il nous suffise simplement d'évoquer votre grande fresque sur l'histoire religieuse contemporaine que vous avez dirigée avec Yves-Marie Hilaire, ainsi que la biographie sur Frédéric Ozanam, éditée il y a quelques années chez Fayard. Votre travail sur le père Marie-Benoît confirme une fois de plus le constat que faisait le grand historien Henri-Irénée Maroux. En effet, lorsque l'histoire est vraie, disait-il, sa vérité est double. Est en fait à la fois de vérité sur le passé et de témoignage sur l'historien. Avant de vous laisser la parole, permettez-moi deux remerciements qui s'imposent. Je tiens à exprimer ici toute ma reconnaissance à Madame Marie-Hélène de Bangy, notre archiviste provinciale. Sa connaissance approfondie du dossier Père Marie-Benoît et sa grande admiration, il faut le dire, pour le frère, nous ont aidés pour vous fournir les documents nécessaires à votre recherche. Je remercie aussi les éditions du Cerf, qui, en publiant ce livre, ont apporté une contribution déterminante à ce qu'on appelle aujourd'hui un devoir de mémoire, si essentiel pour le monde d'aujourd'hui. Merci encore, et je vous laisse la parole.
Merci, cher Père. Avant de commencer mon exposé, je voudrais remercier de mon côté Pierre Moratini, qui milita pour que je devienne le biographe et me recommanda à la province de France des Capucins. Je n'oublie pas non plus un des Capucins présents dans la salle, Pascal Aude, qui était à l'époque à la fraternité de Montpellier. Nous avons bien sympathisé et son intervention, elle aussi, a été décisive. Donc un grand merci à la province de France de m'avoir confié cette recherche intellectuellement et spirituellement stimulante. Alors il y a plusieurs versions dans mon exposé. À Angers, j'ai accentué le côté régional, la découverte, c'est l'objet du premier chapitre, d'un Pierre Pétel enraciné dans son Anjou natal. Une autre version majore la dimension essentielle du Père Marie Benoît, le sauvetage des Juifs. Et puis il y a une version intermédiaire, plus propre à l'écoute des Capucins ici présents, faisant référence à l'ensemble de la personnalité de ce Père d'exception. Alors pour moi, j'ai découvert quand même que par certains côtés, c'était un retour aux sources. Je savais que mon grand-père maternel, Pierre Colombani, avait fait construire dans son village natal, Spelonkato dans la Balagne, une maison que nous appelions tous, et nous appelons tous toujours, la maison du couvent. Parce qu'elle a été construite dans les années 20 en face d'un couvent. Mais quel couvent ? Un couvent de quel ordre ? Eh bien, grâce aux travaux de l'abbé François Casta et un colloque franciscain tenu à Bonifacio en 1982, ben j'ai découvert qu'il s'agissait d'un couvent de Capucins du XVIIIe siècle. Donc, sans nul doute, mes ancêtres maternels ont dû fréquenter ce couvent, venir y prier et y connaître des frères. J'ai même ici une liste, cher Pierre, la pétition de 1818 pour le rétablissement des franciscains en Corse, avec les demandes des votes, des maires, des curés, des juges de paix, commune par commune. Marie-Benoît de Bourdiré, un fils de Saint-François, juste des nations. Le 31 août 1907, à propos du jeune Pierre Pétel, c'est son nom de naissance, Pierre Pétel, qui vient d'avoir 12 ans, et son certificat d'études. Monsieur le curé de la paroisse Saint-Joseph d'Angers s'exprime ainsi. Écoutez bien. C'est un gros père tranquille, mais l'œil est limpide et profond. Toutes les qualités de cet enfant sont en dedans. La volonté paraît très ferme. Eh bien, les 95 années de vie, 95 années, de celui qui devint Capucin, confirment en tout point ce jugement. J'ai cité dans mon livre, d'ailleurs, en totalité, cette lettre exceptionnelle du curé de Saint-Joseph d'Angers. Alors, première question et première partie, où l'enfant et puis l'homme a puisé ce courage indomptable. Une deuxième partie sera consacrée, c'est très important, aux horizons romains. Les horizons de celui que l'Italie a marqué au point de continuer, de retour en France à la fin des années 50, d'écrire toujours sur ses précieux carnets Parigi et non Paris. Troisième partie abordera un demi-siècle, 1940-1990, placé sous le sceau de l'amitié judéo-chrétienne. Une partie possiblement à développer. Enfin, je terminerai, et ceci à l'adresse des Capucins ici présents, surtout, la dernière partie concernera les turbulences. Ah, difficile à écrire. Les turbulences des années pré- et post-conciliaires. avant que le père ne vienne finir ses jours au couvent des Capucins à Angers, le 5 février 1990. Alors, la première partie. Un courage indomptable puisé dans la tradition familiale. Les Pételes, côté paternel, les Royer, côté maternel. Ce sont des familles enracinées dans l'Anjou profond. L'excellente paroisse du Bourg-Tiré, c'est pas moi qui dis excellente paroisse, hein, c'est les textes de l'époque. 1300 âmes à la fin du XIXe siècle, est riche en vocation, elle fait partie de ces pays de hiérarchie acceptée, selon la remarque très pertinente de mon collègue Pierre Barral, les pays de hiérarchie acceptée où l'ascendant exercé par quelques grandes familles est reconnu par tous. Ici, les Armaillers, les Dandiniers, les Falous. L'histoire a légué à la commune le souvenir très présent de la résistance à la politique religieuse de la Révolution française, comme aussi bien sûr à la levée en masse. Au champ des martyrs d'Avrillé, près d'Angers, une Angélique Pételes a été fusillée le 16 avril 1794. Et la Révolution a fait 48 victimes au bourg. Une notice est consacrée au Bourg-Tiré sur Wikipédia. Et cette notice fait du comte de Falous, l'homme de la loi, qui a sa statue d'ailleurs au Bourg-Tiré, fait du comte de Falous, je cite, le plus célèbre enfant du pays. Et pourtant, Falous n'est pas né au Bourg-Tiré. Ben, il y a son château. Est-ce que je réussirai à lui associer un autre nom, celui d'un vrai natif du pays, qui a toujours pas une rue au Bourg-Tiré? Je l'ai dit au Bourg-Tiré le mois dernier, devant tous ceux qui m'écoutaient, dont plusieurs conseillers municipaux. Pierre Pételes, donc, né en 1895, est l'aîné de 4 garçons. Son père tient un moulin sur une petite rivière, la Versée. Mais des difficultés familiales ont surgi et en 1900, le bail du moulin a été résilié. La famille connaît une véritable prolétarisation à Angers, dont témoigne d'ailleurs, et c'est très étonnant, des déménagements très fréquents dans la ville. Le père et le frère de celui-ci travaillent comme ouvriers chez un fabricant de cierges et de bougies, un cirier, M. Soubise. Donc, des revers, la misère endurée, ont dérangé la santé de la mère qui a été internée quelque temps. Pour autant, la foi religieuse a tenu. M. Pételes, le père, a une belle voix. Il aura une longue existence de chantre. On a un diplôme de reconnaissance. Oh, j'aurais aimé que toutes les illustrations proposées figurent dans le livre, mais les nécessités actuelles de l'édition ne l'ont pas permis. Mais il y avait ce diplôme de reconnaissance. Alors, entrer en religion est une tradition dans ces familles. Alors, dans la famille du père, il y a 13 enfants, dont 3 religieuses, et un cistercien mort au Canada en 1886. Écoutez bien, le père Marie Benoît. 18 enfants dans la famille de la mère. Je ne garantis pas que tous aient vécu très longtemps. Enfin, 18 enfants dans la famille de la mère, dont 3 religieuses. Donc, le jeune Pierre à 7 de ses oncles et tantes dans l'église militante. À 12 ans, sans doute un peu avant, il déclare vouloir être prêtre. Mais à cette époque, c'est un vrai parcours du combattant dans le diocèse d'Angers. Nous ne sommes pas dans le diocèse de Limoges. Nous sommes dans le diocèse d'Angers, au lendemain de la séparation. L'évêque ordonne alors une moyenne de 30 prêtres par an. Et, comble de malchance, en 1906, l'évêque d'Angers a ordonné 48 prêtres diocésains. Autant dire qu'il ne sait qu'en faire. Explication ? Ben, explication, posez-moi la question plus tard. Ainsi, Mgr Rumeau s'oppose-t-il à la demande transmise par le curé de Saint-Joseph, en plus la mère qui a été internée. Bon. Mais si Mgr ne veut pas, papa, il y a des religieux qui prennent des enfants dans des écoles apostoliques. Je chercherai jusqu'à ce que j'en trouve une et je m'en irai n'importe où. Alors il se trouve qu'à Angers en 1903, il y a des Capucins, que le couvent des Capucins a été évacué par la force, mais que un de ses pères Capucins... Ah, le portrait a été gardé dans le livre, je suis bien content. C'est le père Paulin, Paulin de Céton. Il est resté en ville, il exerce un apostolat discret, mais suffisamment connu. Alors, aller n'importe où, c'est-à-dire en Belgique, les Capucins, comme beaucoup d'autres religieux, ont dû chercher un pays d'accueil. Pour eux, pour la province de Paris, ce fut la Belgique, à Spy en Belgique. Et quand Pierre y arrive, cependant, l'effectif ne dépasse pas les 11 élèves. Il montera jusqu'à 37. Alors ces élèves sont âgés de 12 à 25 ans dans cette école apostolique. C'est l'enseignement secondaire, jusqu'à la classe de première, pas plus. 12 à 25 ans. Et ce qui m'a surpris, c'est l'âge très élevé d'une bonne moitié, 20, 21, 22, 23, 24 ans, 25 ans. Pierre entre au cours préparatoire, c'est un des plus jeunes, il a 12 ans. Il va suivre le cursus jusqu'à la classe de rhétorique, c'est-à-dire notre première. Une photo le montre à 16 ans. Grâce à Madame de Cacré, on a réussi à faire ressortir le jeune Pierre. Ah, je suis très content. Cette photo figure, et je crois que c'est un très beau portrait, à l'âge de 16 ans, un garçon calme et résolu, un grand gars. 1m71, oh, en 2010, 1m71 pour un garçon, ça n'a rien d'extraordinaire. Mais en ce temps-là, pensez que la moyenne des conscrits de l'armée française en 1914, c'est 1m60. Ceux qui mangent des châtaignes étant les plus petits, bien entendu, les Corses, les Auvergnats, autrement. Les plus petits, ceux qui mangent du pain, les Lorrains sont plus grands, d'accord. Mais 1m71, c'est une bonne taille, nettement plus élevée que la moyenne. 6 ans de séparation absolue avec la famille. Pas de lettres conservées. Non, il devait écrire tout de même. Mais il ne se voyait pas, sûrement pas. La vie était sans doute saine et heureuse, mais parfois aussi dure et un peu rugueuse. Il y a de belles fêtes, de beaux offices, quelques reproductions. Et certains y travaillaient bien. C'est le cas de Pierre. Alors comment le sait-on? Grâce au concours de l'Alliance des maisons d'éducation chrétienne. C'est l'équivalent du concours général des lycées et collèges publics. Qu'on en juge, version latine, en classe de 3e, il est 15e sur 65 qui ont concouru dans toute la France. En devoir de français en seconde, il est 19e sur 45. En première, en version latine, il est 30e sur 95. En version grecque, 23e sur 56. En version latine, 9e sur 25. En thème latin, 3e, on ne sait pas sur combien, mais le thème latin c'est difficile, il y a eu certainement très peu de candidats. Alors, vous allez me dire, mais il n'est pas premier quand même. Mais n'oubliez pas qu'à ce concours participent les élèves des établissements les plus prestigieux, des familles les plus huppées. Stanislas à Paris, bien entendu, les Minimes à Lyon, la Malgrange à Nancy, Notre-Dame-des-Aides à Blois, etc. D'évidence, Pierre Bettel est un très bon élève. On aimerait connaître la fierté paternelle dont on ignore tout. En 1913, Pierre fait une retraite à l'abbaye de Bellefontaine dans le département de Maine-et-Loire. Et c'est là qu'il demande d'entrer au noviciat des Capucins, ce que l'évêque autorise très volontiers. Il va passer une année à Brest, aux Pays-Bas, prendre l'habit et devenir le frère Marie-Benoît de Bourdiret. J'ai puisé un certain nombre de détails dans des récits de noviciats de Capucins qui intéresseront, je pense, en particulier les Capucins et les Franciscains. Il fait profession religieuse le 8 septembre 1914 et il a dû, comme d'autres, en allant à la cuisine, j'ai quand même été un peu surpris, en allant à la cuisine, ses novices récitaient le psaume 129, « De profundis clamaviate, des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. » Les frères mineurs, c'est bien sa nouvelle famille, celui-même qui l'a écrit. Il est mobilisé en 1915. Il va passer 56 mois sous les drapeaux. Il est à Verdun. Au front, il a voulu prendre le risque d'être plus souvent brancardier qu'infirmier. Les infirmiers ne sont pas en première ligne. Les infirmiers reçoivent les blessés. Les brancardiers, ils vont les rechercher au-delà des tranchées. C'est beaucoup plus risqué. On a les lettres à son père maître qui sont très intéressantes à ce sujet. 52 lettres. J'ai pu même en faire une communication dans un colloque d'histoire militaire récemment. Il a côtoyé la souffrance et tous les dangers. Il était, indique sa dernière citation, je passe sur la croix de guerre, toutes les médailles, la médaille militaire, sur sa dernière citation, connu pour son courage à toute épreuve. Retenons encore, pour le passage à l'armée, les mois passés au front ou à l'arrière, enrichissant à un autre titre, la découverte de l'autre, celui qui n'a pas en partage la même foi au Christ et en l'Église. Parce que jusqu'alors, il avait vécu en vase clos des catholiques pratiquants, n'est-ce pas ? Fervents. Donc le passage à l'armée, c'est quand même quelque chose de très important. J'en viens à ma deuxième partie, plus importante encore pour le sujet, les horizons romains. Dès l'année 1921 et jusqu'en 1939, premier séjour à Rome. D'abord consacré aux études. On enverra à Rome pour y poursuivre les cours de Dombes les frères Aubert de Saint-Cyr et Marie-Benoît de Bourdiré. 20 juillet 1921. Pourquoi Rome ? C'est la consécration de brillantes études sanctionnées à Brest. Il a terminé à Brest aux Pays-Bas, premier, avec 76 points sur 80. Ça comprend de la philosophie, de l'écriture sainte, de la théologie dogmatique, des sciences et de l'histoire. Il arrive à Rome au collège séraphique Saint-Laurent de Brinde des Capucins, via Sicilia, c'est pas loin de la Porta Pia. La Porta Pia, en 1870, c'est par là que les troupes de Victor Emmanuel ont mis fin à l'état pontifical. Le collège Saint-Laurent de Brindisi, si vous voulez. Il y a alors 57 étudiants qui viennent, pour la plupart, c'est une sorte de foyer, un peu plus quand même, il y a de la direction spirituelle, mais enfin, les étudiants vont prendre leur grade, pour la plupart, à l'université grégorienne. Le carnet du père, on a des carnets et des agendas précieux. Précieux, mais insuffisants, qui l'aident sur notre faim, bien entendu. Quelques appréciations. Par exemple, le père Gariou Lagrange, en avril 23. Appréciation sur ce père célèbre. Un maître en philosophie. Les molinistes semblent transporter en métaphysique des notions qui ne conviennent à l'acte libre et au péché qu'en morale et en psychologie. Au mois de novembre 23, le jeune père, qui a été ordonné le 5 août, entend pour la première fois un jeune philosophe français, Jacques Maritain, qui vient parler de la crise Saint Thomas et la crise de l'esprit moderne. Et Marie-Benoît est enthousiasmé. Il le dit dans son carnet, on ne sait pas plus. L'historien que je suis attend aussi des allusions au contexte politique italien. Alors, 22 octobre 1922, coup d'état des fascistes à Rome, Mussolini président. En 1924, j'ai puisé une allusion sans doute ironique. Visite au jardin zoologique. On voit Mussolini dans une cage à lion s'amusant avec un lionceau. Il n'y a pas plus simple. Pie XI, dans l'encyclique Unigenitus Dei Filius de 1924, vient d'imposer à nouveau, avec insistance, aux séminaristes, l'enseignement de saint Thomas. Ce qui semble avoir semé le trouble dans l'ordre franciscain. Un thomisme poussé à l'excès aurait conduit certains lecteurs, un lecteur c'est un professeur, hein, certains lecteurs et étudiants à l'indifférence, sinon au dédain, à l'égard des maîtres de l'école franciscaine. Or, Marie-Benoît étudie beaucoup d'un Scott. Scott, entre parenthèses, j'ai lu quelques lignes dans la documentation catholique du 7 juillet dernier du pape Benoît XVI consacré à Dun Scott. Marie-Benoît étudie beaucoup Scott et se penche en 1925 sur le différend, le litige qui oppose l'école franciscaine et saint Thomas. Ça porte sur le sujet suivant. Le Fils de Dieu se serait-il incarné s'il n'y avait pas eu la chute à réparer ? Oui, dit Dun Scott. Non, dit saint Thomas. Désormais, notre capucin fera du motif de l'incarnation l'un des grands sujets de sa réflexion spéculative, jusqu'à la fin de sa vie. Là, l'éditeur a accepté de publier une reproduction de l'écriture même du très vieux père, disant que ça avait été le grand sujet de réflexion de sa vie. Au mois de juillet 1925, il est reçu docteur et il publie une première recension aux études franciscaines. Cette recension est consacrée, je cite, au remarquable travail du dominicain espagnol Marin Sola, l'évolution homogène du dogme catholique. Il reprend l'argumentation, oui, le dogme s'accroît, mais sans cesser d'être identique à lui-même. On retrouve là aussi Newman. Il reviendra souvent sur cet auteur, et sur Marin Sola, il précède de quelques années le père Congar, mais comme il n'y a pas de dominicain dans la salle, je ne risque rien, n'est-ce pas? Si, il y a un dominicain, ben voilà. Il précède le père Congar, qui lui aussi intervient sur le sujet dans le bulletin Thomiste en 1932. Qu'il suffise donc de dire que notre intellectuel, notre théologien, est un intellectuel capable d'affronter les questions les plus difficiles, les plus controversées. Il a 30 ans, il est docteur, il est père spirituel au Collège international et choisi comme répétiteur en théologie. Alors ses contributions aux études franciscaines attestent de ses curiosités, de sa culture. On se rend compte qu'il connaît Étienne Gilson et de la pensée de Saint Bonaventure, à laquelle il accorde le plus grand crédit, il va de soi, il écrit qu'elle est une semence et non une borne, 1929. Et j'ai trouvé aussi, de sa liberté d'esprit, cette explicitation d'un différend qu'il opposait à l'un de ses confrères. Je cite, « L'adhésion de l'esprit s'obtient par voie de discussion stricte et non par voie affective ou considération d'opportunité. » Donc, nettement exprimé. Ajoutons qu'il a hérité des siens une belle voix de basse et qu'il exerce les fonctions de maître de chant grégorien avec plaisir. En 1934, il rencontre à nouveau Maritain et il l'entend. Il entre en correspondance avec lui. Grâce aux archives Maritain à Kolsheim, j'ai eu des renseignements complémentaires. Une longue lettre de Marie Benoît qui suggère l'intérêt qu'il y aurait à laïciser la théologie. Montrer qu'elle n'est en réalité qu'une extension de la philosophie et que par conséquent, n'importe quel philosophe a le droit et le devoir de s'en mêler. Bon, c'est d'ailleurs le cas de Maritain qui est un laïc. En 1935-36, autre échange intellectuel, évidemment sur lequel on aimerait en savoir un peu plus, avec un philosophe thomiste, Aimé Forest. Pour autant, Aimé Forest, que j'ai connu parce qu'il a été professeur à la faculté des lettres de Montpellier dans les années 1950, tant que j'étais étudiant, et au pied de sa chaire se pressaient de très nombreux étudiants, en particulier les jésuites venant du Scolastica de Valls, qui étaient très nombreux pour écouter M. Forest. J'ai toujours le souvenir de ce visage, empreint d'une tristesse indélébile, l'explication est très simple, deux de ses enfants avaient péri à Oradour-sur-Glane, dans le massacre d'Oradour-sur-Glane. Alors, on perçoit aussi, chez Marie Benoît, l'intérêt pour les problèmes sociaux du temps. Janvier 36, il entend une conférence sur les jaucistes par le fondateur de la JOC, le belge Jean-Noël Cardin. En 1938, il suit la semaine sociale de Rouen. Ses séjours estivaux, bien sûr, le ramènent en Anjou, au Bourdiré, au Tremblay. Le curé le fait coucher dans la chambre que Louis Veuillot avait, où Louis Veuillot avait été hébergé. Bon. Semaine sociale de Rouen. Mais Rome, c'est aussi, et pour nous c'est capital, une approche du judaïsme. Mon hypothèse est la suivante, les historiens fonctionnent avec beaucoup d'hypothèses, hein. Mon hypothèse est la suivante, s'il avait eu une obédience dans un couvent de province en France, il n'aurait pas, je crois, eu cette acuité de perception du judaïsme qu'il a pu avoir à Rome. Alors, un faisceau de 8 présomptions légitime mon analyse. D'abord, le jeune religieux a obtenu un diplôme en langue hébraïque avec la mention summa cum laude probatur. C'est la plus haute mention possible. En langue grecque, il n'a pas eu le summa. Il a eu seulement cum laude probatur. En 1926, donc, connaissance de la langue hébraïque approfondie. 1926, il est inscrit à l'Association des Amis d'Israël, qui 20 ans avant l'après-Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire avant la rencontre de Sigismund, préconise l'enseignement de l'estime. Association qui a suscité les réserves des papes pour des raisons qui restent à éclaircir. J'essaie de formuler à nouveau quelques hypothèses. Le père Marie Benoît a une très grande culture biblique. Il parcourt les deux testaments sans aucune difficulté. Par ailleurs, au Collège international, il prend connaissance de ce qui se publie alors sur le racisme, l'antisémitisme. Il n'ignore rien des prises de position de Pie XI. J'ai été alerté par la canonisation du capucin bavarois Conrad de Barsheim et ce qu'en a dit le pape le 24 janvier 1934. 34. Je cite Pie XI. La fierté nationale exagérée, un orgueil des pensées, des doctrines et des pratiques qui n'est ni chrétien ni humain. Comment de tels propos n'auraient pas eu d'écho au Collège international? L'année suivante, 1935, c'est Jacques Maritain, dont il est infidèle, qui publie Le mystère des Juifs et des Gentils. En 1937, c'est l'encyclique Mit Bremen der Sorge, avec un souci brûlant. Et comment ignorer dans cette encyclique cette ferme mise au point, je cite, qui veut voir bannir de l'Église et de l'école l'histoire biblique et la sagesse des doctrines de l'Ancien Testament, blasphème le nom de Dieu, renie la foi au Christ véritable tel qu'il est apparu dans la chair. Par ailleurs, je pense, sans en être certain, mais c'est plus que vraisemblable, que le père a dû prendre connaissance du numéro entier consacré en 1939 par la Nouvelle Revue Théologique de Louvain au racisme. On n'oubliera pas aussi, chez le père Marie Benoît, une tradition familiale qui, m'a-t-on dit, était proche du sillon et de la démocratie chrétienne. Nous arrivons en 1939-40, c'est maintenant le passage de la réflexion intellectuelle à l'affrontement au tragique. Alors, un demi-siècle, troisième partie, sous le sceau de l'amitié judéo-chrétienne. Aider les Juifs à fuir. Cela commence pour le père Marie Benoît à Marseille. À peine arrivé, j'explique pourquoi il est à Marseille. Bon, à peine arrivé, une famille juive vint me trouver. Je pris contact avec les organisations juives. Il arrive au couvent des Capucins en mai 40. On me laissait faire. C'est pas la province de Paris, c'est la province de Lyon. Très important cette distinction. Une fois ou deux, le père provincial me rappela discrètement à la prudence. Mais pourquoi s'adresser si vite à ce capucin inconnu à Marseille? Hypothèse la plus probable, la rencontre à l'armée, où il a été mobilisé bien entendu, peu auparavant, d'un professeur au lycée Thiers de Marseille, le capitaine René Guassala, un français israélite. Il est très important de distinguer toutes ces bon, les Français israélites et les Juifs polonais ou autres. Très important à distinguer. Marseille est un port. En 1941, on y trouvera quelques 40 000 Juifs. Mais c'est à Marseille aussi qu'en juillet 1940, Henri de Monterland a écrit le Solstice de juin, œuvre dans laquelle il invitait à mettre en sommeil le christianisme. Je cite textuellement Monterland. Le père Marie Benoît va donc prendre des contacts très vite, puisqu'on le sollicite. Il est lié à des réseaux benvenistes, Adrien Benveniste, réseau André, d'André-Joseph Basse. Ce réseau André, on le connaît assez bien, parce qu'il est hébergé au couvent des Dominicains, où les pères de Parseval et Perrin sont tôt engagés dans la résistance et l'aide aux Juifs. Alors c'est vrai que sur les Dominicains à Marseille, j'ai été très aidé par un très bon travail d'Augustin Lafay, mais on n'a pas l'équivalent pour les franciscains et capucins, malheureusement, sur Marseille. les pères de Parseval et Perrin sont tôt engagés dans la résistance et l'aide aux juifs. Alors, organisation juive, le Joint, l'organisation américaine, l'organisation de secours aux enfants, les éclaireurs israélites, important, ça peut être à les contacts avec Edmond Flegg en particulier, autant d'organisations avec qui les contacts sont établis. Je cite, les parloirs étaient pleins, les parloirs du couvent de Marseille. Parmi les intermédiaires, une femme, Fernande Le Boucher, vite distinguée. Elle arrive, elle dit, j'ai entendu dire que vous êtes l'ami de beaucoup de juifs, lors de la première rencontre. Près de Marseille aussi se trouve, à côté d'Aix, le camp des Milles, où le père a pu entrer quand ? Avant l'été 42, semble-t-il. Et, comme le camp des Milles s'est proche d'Aix, à Aix, Marie-Benoît rencontre pour la première fois l'inspecteur général d'histoire Jules Isaac, Mallet et Isaac, cité de très nombreuses fois dans l'ouvrage. Novembre 1942, occupation de la zone sud, conséquence du débarquement anglo-américain en Afrique du Nord. Tout devient beaucoup plus difficile. Les rafles de l'Opéra de Marseille, puis du Vieux-Port, rendent la menace immédiate. Où fuir ? De novembre 42 à septembre 43, il y a comme refuge possible la zone d'occupation italienne. C'est la destination principale alors des fugitifs. Avec André-Joseph Bass, avec Fernande de Boucher, le père prend le train très souvent, chaque semaine. Hypothèse, la barbe, la robe et la stature en imposent. On ne lui demande pas ses papiers dans le chemin de fer. Ses papiers et ses faux papiers. Plusieurs fois à Cannes, à Nice. Je donne quelques détails. Il rencontre le commissaire italien aux affaires juives, Lo Spinoso, qui n'était pas du tout antisémite, nullement antisémite, et qui lui demande si les juifs et les chrétiens ont le même Dieu. Et il a fait la connaissance d'un personnage très important, le banquier italien Angelo Donati, lequel échafaude un plan. C'est Donati qui échafaude ce plan. C'est pas Marie-Benoît. Hommage funèbre de Marie-Benoît. Pierre Pirard commet cette bourde, disant « Ce plan ne pouvait germer que dans l'esprit d'un fils de Saint-François. » Ben non, c'est le banquier italien qui est l'auteur du plan. Qui prévoit le passage en Afrique du Nord de milliers de juifs fugitifs. Pour cela, il faut demander l'appui du Saint-Siège, pour lequel un rapport est préparé avec des renseignements obtenus, alors ça c'est important, du consistoire central de Lyon, donc il y a tous les détails, il y a les personnages rencontrés, et de divers rabbins et personnalités. Le père Marie-Benoît devait rejoindre son poste à Rome. Il n'a pas été expulsé, il n'a pas été envoyé à l'ordre des erreurs de Philippe Friedman, ceux qui ont sauvé nos frères, Zer, Brozhov, Kippers, non. Il y a longtemps qu'il devait partir à Rome. Il devait partir à Rome depuis des mois. Mais il franchit les Alpes seulement en juin 43. Il a rédigé son rapport, nous l'avons en entier. Je l'ai cité presque en totalité. Il vaut mieux s'appuyer sur des documents quand on les a. Il remet ce rapport à Pie XII lors d'une audience particulière. C'était pas facile d'avoir cette audience, mais le ministre général des Capucins, un Belge, a réussi à obtenir cette audience le 16 juillet 1943. Alors, à propos des ordres donnés aux policiers français, Pie XII a ces paroles, « On n'aurait pas cru cela de la part de la France. » Honnêtement, de la plume de Marie-Benoît, il n'y a rien d'autre. Il n'y aura jamais rien d'autre concernant Pie XII. Rien que ça, n'a pas de chose. Divers demandes s'étaient faites, des annexes jointes, des informations venant d'organisations juives. J'ai été stupéfait de lire, venant d'une organisation juive, cette notation concernant des déportés en Pologne. Le moral parmi les déportés est généralement bon. Ils ont confiance dans l'avenir. À Rome, le père Marie-Benoît travaille en étroite collaboration avec la DELASEM, organisation de secours aux juifs étrangers venus en Italie Richard Pasquier, la croix du samedi 1er décembre dernier, dans le forum, rappelle cela, et ça m'a fait plaisir quand même, qu'il parle aussi du magnifique Père Benoît. Bon, alors, l'ADASEM, Association d'Israélites d'aide aux Juifs, bientôt, l'ADASEM va disposer de six salles au couvent international. Après la chute de Mussolini, l'invasion allemande, la rafle de Rome, 16 octobre 1943. Le résumé de l'activité du père Marie Benoît et de ses collaborateurs a été écrit par un juif, Stéphane Schwamm. J'ai trouvé le rapport complet aux archives maritaines à Gottschalk, ça m'a été très utile. En mars 1946, il est très détaillé. Le père Benoît d'ailleurs s'en inspire aussi, il en a eu copie. Alors on a là un certain nombre de juifs qui ont été très présents, italiens, Sorani, Lévi, juifs étrangers, Aaron Kapsterstein, Stéphane Schwamm, sur lequel j'ai cherché à avoir quelques renseignements. Il fallait protéger et héberger 1200 juifs étrangers, hein, ne parlons pas des juifs italiens, autre question. Ça supposait de frapper à bien des portes, d'obtenir de nombreuses complicités. 8 mois vécus au mépris de tous les dangers. Rome est libérée le 4 juin 1944 par les Américains et un corps expéditionnaire français, le corps expéditionnaire du général Juin. Le 8 juin, on recherche la clé de la synagogue. C'est le père Benoît qui l'aurait sorti et qui vint s'exprimer en français, à la grande surprise des juifs italiens accourus, qui d'habitude ne l'avaient entendu qu'en italien. Explication simple, il a parlé après le rabbin André Zaoui, qui était du corps expéditionnaire français et qui naturellement s'est exprimé en français. À chaud, cette notation du père Didier de Cré, du couvent international, dans son journal. On a le journal du père Didier, c'est extrêmement intéressant. Le 9 juin, je cite, « Pie XII est très sensible et très attaché à sa ville natale et épiscopale. Ajoutons qu'il voit les choses ici sur place. Pour ce qui se passait au loin, il lui était difficile de se renseigner exactement. Au surplus, il avait à éviter le plus grand mal pour les victimes elles-mêmes. » Il sentait moins les choses, et d'autre part, la raison lui imposait la prudence. On aurait voulu une intervention plus active du Saint-Siège dans cette affaire de la persécution des Juifs. On oubliait, trop, que le rôle de l'autorité suprême n'est pas de prendre toute l'initiative. On a là en germe l'écho des polémiques qui vont naître, l'intérêt c'est dans le journal du 9 juin 44. Et puis ce « on », j'ai tout lieu de penser que c'est le père Marie Benoît du mouvement international. On aurait aimé, on aurait voulu. Dès lors, à Rome, en Italie d'abord, en France ensuite, le père Marie Benoît va entretenir des rapports d'amitié avec des familles sauvées, comme aussi d'autres juifs rencontrés. J'avais beaucoup de documents, malheureusement à l'édition ils ont sauté, mais il y avait des documents très émouvants que nous avions trouvés dans les archives. Les dames de Sion, lui ont demandé des causeries dès l'automne 44. Ces causeries, il les borne à commenter l'Ancien Testament. Le 31 décembre, il est reçu au cercle israélite, mais on s'inquiète de ce qu'il peut dire à la congrégation sur la doctrine de la foi. Au Saint-Office, le promoteur de justice rappelle que s'il n'enseigne que l'Ancien Testament, on risquait de diminuer l'ardeur des Juifs à se convertir à la religion chrétienne. Grand débat. Les archives du père ont conservé la très longue lettre écrite pour sa défense à Mgr Ottaviani le 7 juillet 1945. Je l'ai citée en entier sans en changer un mot parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'il dit, Marie Benoît? Il met en garde contre des baptêmes précipités qui, dit-il, ne peuvent susciter chez nombre de juifs que le mépris pour les prêtres catholiques. Une vraie conversion, dit-il, suppose le respect des consciences, la nécessité d'un temps de probation. Pour les enfants mineurs, le grand débat, le consentement des parents est nécessaire. Vous allez me dire, et le père Barry Benoît, combien il a baptisé de juifs? Posez-moi la question. Le père est sollicité à propos de la recherche des enfants juifs, sollicité dès le début par son ami Giuseppe Sorani. Et il va s'en occuper de façon très active dans les mois qui suivent la libération de Rome. Il va aussi présider au fichier mondial des dispersés, avec l'appui de Madame Eleanor Roosevelt, ce qui représente un travail écrasant. Le 8 juillet 1945, il fait une conférence qui sera traduite et publiée en anglais. Et dans cette conférence, il emploie, de longues années avant Jean-Paul II, l'expression, à propos des Juifs, de frère aîné dans la foi. En 1948, il est l'un des premiers membres des amitiés judéo-chrétiennes. L'année suivante, 1949, Jules Isaac est à Rome. Il y rencontre le père Marie Benoît, et celui-ci lui dit « Allez voir le pape, demandez une audience ». Jules Isaac est d'abord opposé. J'insistais, il se décida. L'audience eut lieu, quelques minutes. Il fut question du rétablissement de la genuflexion dans la liturgie du Vendredi Saint à l'oraison pro-judaïsme, comme dans toutes les autres oraisons. Le pape a bien écouté, il a pris note, et de fait, cette genuflexion sera rétablie en 1955. De retour à Aix, Jules Isaac, dans une lettre au secrétaire général de l'amitié judéo-chrétienne, je cite Isaac, fait état du courage le plus admirable du père Marie Benoît dans la période critique. Il a pu se faire applaudir à la libération dans la synagogue de Rome. Alors les carnets du père font état, durant les années 50, de nombreuses visites ou correspondances avec des amis juifs. Je donne une liste, elle est impressionnante. Et puis, grâce à l'index, on peut s'y retrouver facilement. Si vous cherchez des noms, reportez-vous d'abord à l'index. En 1955, à Milan, il reçoit une médaille d'or de l'Union des communautés israélites-italiennes. En 1958, le grand rabbin de Rome, Elio Toaf, le fait inviter en Israël. Il a eu des contacts avec les grands rabbins de Rome. Mais pas, semble-t-il, avec celui qui s'est fait baptiser par Pitou, son grand rabbin Zoli. Il en parle. Regardez à l'index Zoli. Et ça l'ennuie beaucoup, cette affaire-là. Parce que Zoli s'est fait baptiser, mais, disent les publications juives de cette époque, ça ne s'est pas fait en 24 heures. Or, pendant tout ce temps, il a touché son salaire de grand rabbin de Rome, n'est-ce pas? Évidemment, ce n'est pas en sa faveur. Alors, le grand rabbin Elio Toaf le fait inviter en Israël, et il est fortement impressionné par le style de vie des kibbutzim. Cela fait penser, dit-il, aux antiques Esséniens dont parlent les manuscrits de la Mer Morte. Comme une publication juive a rendu compte de tout ce voyage, je l'ai cité intégralement. Revenu en France, le père a de fréquentes et faciles occasions de rencontres, y compris à Paris, dans certains quartiers. Il y a une petite note d'un journal qui est très intéressante à ce sujet. Ou lors des manifestations officielles. On avait un certain nombre de photographies que l'éditeur a conservées. Étude franciscaine va publier sur lui en 68 11 pages sur le Concile Vatican II et les Juifs. Et de la déclaration sur les Juifs, il donne une interprétation maximaliste. Mais ses engagements se font principalement sur la base de contacts personnels et non de controverses théologiques. En 1964, la commission des justes pré-Yad Vashem fait de lui le 7e Français reconnu juste des nations. 7e Français, hein. Pas le 7e juste des nations, le 7e Français juste des nations. Il reçoit la médaille à l'ambassade d'Israël le 2 décembre 1967, en même temps que le premier Français juste des nations, qui est un jésuite de Poitiers, le père Jean Fleury. J'en ai profité, et d'ailleurs, en dehors du livre, j'ai déjà beaucoup travaillé sur les Justes de France. Qui sont les Justes de France, à partir du dictionnaire de Lucien Lazare, 2003. L'introduction au dictionnaire des Justes de 2003 cite 5 noms comme symbole du comportement humain. Sur ces 5 noms, il n'y a qu'un seul nom de Français, le père Marie Benoît. Le 22 décembre 1970, c'est le père qu'on voit au premier plan dans la synagogue de la rue de la Victoire. Vous avez l'illustration. De même en 1979. En 1984, c'est le grand rabbin Kaplan qui vient lui remettre au couvent de la rue Boissonnade, ici, les insignes d'officier de la Légion d'honneur. Laurence Perdue, qui avait écrit au président de la République, François Mitterrand, pour qu'il soit promu, souhaitait une manifestation triomphaliste à l'hôtel de ville de Paris. Mais le père n'en a pas voulu, et ça s'est fait privatim, ici, rue Boissonnade. Dans son extrême vieillesse, retenons encore une relation d'amitié avec une jeune artiste peintre, Mireille Tenenbaum. Le fils de Georges Bernanos, Jean-Loup, remercie en 1990 du portrait du père qui vient de disparaître. Et il esquisse cette comparaison. Ne trouvez-vous pas que le père Marie-Benoît ressemble physiquement un peu à l'abbé Pierre? Rien d'étonnant, après tout, les saints sont si proches. J'en arrive à ma dernière partie. Difficile à écrire. Difficile à écrire. Les turbulences, les années pré- et post-conciliaires. Au milieu des années 50, auparavant, il y a deux capucins qui, à mon avis, les deux capucins vivants, les plus célèbres dans le monde. Tous les deux vivent dans la province de Foggia, à l'est de Naples. Il y a la carte. J'ai nommé Padre Pio, San Giovanni Rotondo, et le père Marie-Benoît, à Campobasso. Ce père Marie-Benoît, on a un certain nombre de renseignements, y compris on a eu des renseignements, des témoignages de pères de Campobasso qui m'ont écrit, et je remercie le père André Maripon de Clermont-Ferrand d'avoir traduit cet italien à mon usage. Le père Marie-Benoît allait avoir son buste à Washington en 64, et à cette occasion, le président Lyndon Johnson allait le donner en exemple aux jeunes Américains. Son buste à Washington, bientôt sa médaille des justes, pas la moindre rue à Angers, pas la moindre rue au Bourdiré. Affecté à Tours en 1956, pourquoi on l'envoie à Tours? On va perdre France. Alors, est-ce une punition, etc. J'ai essayé de faire la lumière. Bon, c'est pas très clair. C'est des affaires internes à l'ordre des Capucins, mais il est évident que s'il y a des sanctionnés, le père Marie-Benoît n'est pas le seul. Bon. Alors, il est affecté à Tours, je cite le provincial de Paris, à cause de sa compétence théologique et de la sécurité de sa doctrine. Donc, on a besoin, en 56, de quelqu'un qui soit sûr au point de vue doctrinal. Il est lecteur de dogmes. Il enseigne dans un contexte devenu difficile. Souvent on dit 68, mais c'est une erreur. Il faut remonter plusieurs années avant. Et pour les mouvements de jeunesse, je l'avais étudié ailleurs, la crise remonte à 1948-50, au moins au niveau des états-majors nationaux. Donc, le voilà à Tours. Le père Yvon Person m'a donné ce témoignage, je cite, « Aucun d'entre nous ne put jamais le détourner de ce coup. Une objection déplacée à ses yeux, je suppose que les étudiants maintenant deviennent agressifs et interrompent l'enseignant, était traitée poliment. Cette objection vient trop tôt. Et le cours continuait paisiblement. Et le père Person d'ajouter, il avait un don exceptionnel de garder la distance vis-à-vis des opinions. Mais voilà qu'en 1963, l'effervescence se situe ici, au couvent de Paris-Boissonnade. Le père Marie-Benoît y est appelé comme gardien. Et ici s'est posée pour l'historien une question importante, car un des pères du couvent, le père Louis Dussault, avancera, je cite, qu'il était probablement pas fait pour les responsabilités de gardien. Que cette nomination a étonné tous les frères, dit un autre capucin. Alors moi, j'ai voulu situer cette charge sur fond de crise culturelle et de crise religieuse, celle des années 60 en Occident. Elle n'est pas particulière aux capucins. Je pourrais vous parler des Dominicains très longuement, mais je ne ferai pas, n'est-ce pas ? J'ai beaucoup de détails sur les Dominicains. Bon, on pourrait vous parler des Franciscains, de tous les ordres religieux. Jésus, bien entendu, a trop centré par ailleurs, a trop centré la réflexion sur la réception du Concile. On met, c'est la faute au Concile, ou le Concile n'est pas allé assez loin, enfin bon, peu importe, on méconnaît une crise beaucoup plus générale. M'a frappé l'appréciation faite par un protestant, le pasteur André Dumas, qui à propos des années 1965-1974 dit « Ce fut une décennie d'interdestruction soupçonneuse. » Et je confirme, ayant eu dans ces années-là à Montpellier des théologiens de la faculté de théologie protestante, notamment la faculté de théologie, enragés maoïstes, ces théologiens qui venaient dans nos cours à l'université. Les catholiques étaient plutôt au PC, n'est-ce pas ? Mais chez les protestants, il y avait un tropisme maoïste. Une décennie d'interdiction soupçonneuse. Or, les protestants n'avaient pas de concile à recevoir. Alors, dans le vrai, c'est une brutale mutation culturelle. La crise est plus précoce en France. Elle sera décalée au Québec. Elle sera décalée en Espagne. Décalée en Suisse. Mais combien virulente aussi. La religion de la consommation a fait sa percée. La consommation tue la contemplation. Le discrédit des pensées sociales propres aux chrétiens redonne vigueur au schéma dualiste, capitalisme libéral d'un côté, solution inspirée du marxisme de l'autre. Le marxisme, l'horizon indépassable de la culture, Jean-Paul Sartre. Le marxisme, pour beaucoup d'intellectuels, c'est la science de la société, la science de la société. Et pour les militants, capucins ou pas, n'est-ce pas, les fiers communistes ont les bonnes solutions. Non, l'expression « les fiers communistes », c'est du père Michonneau, et ça date des années 46. Les fiers communistes impressionnent, ils ont les bonnes solutions. Bon. Alors, chez les capucins, de jeunes religieux contestent les observances traditionnelles. Le modèle des gros couvents est récusé en faveur de petites fraternités. L'arrêt de l'expérience des prêtres ouvriers, je donne quelques détails, a frappé plusieurs frères. La revue Frères du Monde, en 1959, est le premier foyer du maoïsme chrétien en France. Tiens, parmi ceux qui ont adhéré dès le début, quelqu'un qui est très important, il va y avoir un film, Le Président, dans quelques jours, Georges Frêche de Montpellier, que tout le monde connaît, bien entendu. Frères du Monde. Premier foyer de maoïsme chrétien en France. Des tensions résultent de cette effervescence, les témoignages sont légion. Il n'y a pas que les chroniques de Paris Moissonnade. Il est vrai que celui qui tient la chronique est particulièrement engagé dans un sens de virulence opposée, tout à fait contradictoire. Il est si heureux de recevoir une photo dédicacée de Charles Maurras. Et il l'écrit. Il est si heureux de la visite du roi Juan Carlos et de la reine Sophie à Paris que ça figure dans les chroniques de Moissonnade, ce qui est un peu curieux. Il écrit tellement qu'un jour, nous dit-on, le gardien a déchiré 11 pages qui manquent, c'est dommage. On perd 11 pages de la chronique. Je suis persuadé que ce n'est pas particulier au Capus. Le livre des chroniques, un rapport du ministre provincial de Toulouse, le frère Marie-Abdon Santaner, en 1962, donne d'autres exemples. Et l'année suivante, 63, la province de Paris entière est en effervescence, le chapitre provincial vient d'être supprimé. Alors, oublier ce contexte, c'est s'exposer à ne pas comprendre la tâche du nouveau gardien. On lui demandait d'harmoniser les tendances diverses. On célèbre ses 50 ans de vie religieuse le 19 décembre 1963. Le frère Edgar le présente comme l'homme des nouvelles frontières. C'est tout à fait dans l'esprit du temps, hein. C'est la réforme Le Mouteux des Scouts de France. L'homme des nouvelles frontières, l'homme d'un écuménisme ouvert au monde non chrétien, romain de toutes les fibres de votre être, vous reveniez avec cet immense fond d'indulgence, secrètement amusé, mais toujours si compréhensive, qu'on ne trouve qu'en Italie. Cette remarque me paraît très fine. Alors, il vit paisiblement les années de Vatican II. Il entre sans problème dans le renouveau liturgique, ce qui n'est pas le cas de tous les autres capucins de Moissonnade, théologique ou pastoral. Il se situe au-dessus des conflits. Peut-être trouvait-il du réconfort dans la reprise de ses recherches spéculatives. On peut le penser. À partir de 1963, aux études franciscaines, quatre forts articles, je vous donne les titres, « Assertion métaphysique d'orientation bonaventurienne ». Il veut toujours concilier scotisme et thomisme. Il est disciple de Bonaventure, qui donne à la théologie un but affectif et pratique, « ut boni fiamus », pour que nous devenions bons. Il ne méconnaît pas saint Thomas, il cite Théard de Chardin, le cardinal Journet, Maritain. L'Église, dit-il, c'est le Christ continué, mais si on demande aujourd'hui où sont ces croyants qui suivent le Christ, on devra être circonscrit pour répondre, et ne pas se limiter au nombre des fidèles catholiques, parmi les non-catholiques, dans le judaïsme, et au-delà même, dans le monde tout court, des penseurs compétents affrontent les problèmes de la vie humaine. Autrement dit, la philosophie de Marie-Benoît invite à un optimisme courageux. C'est vrai que l'optimisme, c'est dans l'air du temps des années 60. En 1972, il fait le point pour ce qui le concerne. Il se dit heureux d'appartenir à l'ordre, alors que les motifs de tristesse ne manquent pas. Un religieux pacifié et pacifiant, dit le père, se souvient le père Yvon Person. Il continue d'impressionner. Il reste l'homme du conseil, à 90 ans, encore actif. J'ai essayé de voir ses itinéraires dans Paris. Il va retrouver les siens à Angers, mais malheureusement au couvent médicalisé. À partir de novembre 89, il y meurt. Il est inhumé dans l'enclos, mais il faut chercher pour savoir où, hein, dans l'enclos à Angers. Enfin, bon. Il m'a semblé qu'aucun des articles parus dans la presse ne méritait l'attention du mot d'adieu prononcé par le frère Louis Dussault. Son combat à lui, ce fut l'entraide inlassable envers nos frères juifs. Le grand rabbin Yotoaf écrit au gardien de Paris-Boissonnade, qui est alors le père Gourdon, que son souvenir soit béni. Le père n'était pas entré dans un débat théologique. Je pense qu'il aurait souscrit, je m'engage, à ces propos d'Emmanuel Lévinas, que je cite, « Je ne sais dessiner la solution des problèmes insolubles. Elle dort encore au fond d'une boîte sur laquelle veillent cependant des personnes qui se sont rapprochés, Lévinas, par-delà du dialogue, altérité et transcendance. » Alors, des capucins, il y a bien des portraits. Domine le prédicateur des missions paroissiales. Comme on aimerait que j'écrive une biographie du père Marie-Antoine de Lavore, capucin de Toulouse célèbre. Ce ne sont pas des intellectuels, ceux-là. J'ai esquissé des comparaisons. Et ça m'a conduit à poser la question de la fidélité essentielle à saint François. Pour cela, j'ai été aidé du très beau livre d'André Vaucher. Je le lisais il y a deux jours, je l'ai rencontré, André Vaucher sur saint François. Dans l'un et l'autre cas, Marie-Benoît saint François, nous trouvons des artisans d'un dialogue pacifique qui constitue un pont avec les musulmans pour saint François, John Tolan, le saint chez le sultan, ouvrage à lire aussi, et avec les juifs pour Marie-Benoît. Mais il y a un autre point de convergence qui mérite d'être relevé, le rapport à l'Église comme institution. André Vaucher vient de montrer que François est en rupture avec l'accoutumance à la richesse des gens d'Église et autres turpitudes, mais qu'il a réagi sans agressivité, dénonçant les péchés de l'Église, mais toujours en communion avec elle. De son côté, on ne voit pas que publiquement, le père Marie-Benoît et manifester des divergences, il m'a fait penser en cela à Frédéric Ozanam. Alors, François, Marie-Benoît de Bourdiré, Aristide de Sousa Mendes, le consul de Portugal à Bordeaux, des hommes libres dont la première instance morale a été la conscience éclairée. Je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur le professeur, pour cette magnifique fraise qu'on a envie seulement de se plonger dans votre livre. Ce que vous nous avez comme ça segmenté, il y a tous les liens à faire entre les différentes périodes, et on va pouvoir tout à l'heure se plonger dans l'ouvrage. Auparavant, peut-être des questions. Il y a certainement des questions.
Y compris les plus difficiles.
Voilà.
Les questions.
Bon, je commence là. Allez. Première, ça va vous donner le. Oui. 1925, il soutient. Parce que finalement, ce qui est intéressant, je trouve, dans votre biographie, c'est qu'il y a des tas de. On peut l'aborder de tas de manières différentes. Et en particulier, la question, par exemple, de la formation des Capucins. 1925, ce père soutient un doctorat à Rome. Bah, jusqu'à la Révolution française, jamais un seul Capucin n'avait soutenu un doctorat, ni de philosophie, ni de théologie, dans aucune faculté. À partir de quel moment, finalement, les Capucins se sont-ils mis à soutenir des doctorats dans des universités? Voilà une question, je dirais, et la même question d'ailleurs peut se poser au niveau des franciscains, c'est peut-être dans les années 20-25, à partir de ce moment-là, on commence à soutenir des thèses. Mais enfin, en tout cas, j'en suis sûr pour les Capucins, jusqu'à la Révolution française, il n'y a pas eu un seul Capucin.
Mais ces thèses ne sont-elles pas des formalités?
N'empêche
qu'ils éprouvent, c'est-à-dire des
ils éprouvent
des
le besoin.
En, des en 20 pages.
C'est possible.
J'ai un doute.
Mais ils éprouvent le besoin d'aller la soutenir.
On ne parle pas de sujet. Hein. Il y a un diplôme, c'est tout.
Ouais.
Je suis un peu prudent. Hein. Non, vous avez une réponse?
Je pense qu'à partir du moment où vous allez autour à la grégorienne, il fallait bien que ça se termine par un diplôme.
Oui, c'est ça.
Ce sont des diplômes qui sont facilement donnés. C'est ça.
Oui, en France.
Ah, en France, non,
mais... Un religieux français titulaire d'un doctorat, un capucin français titulaire de doctorat. C'est ça. Enfin bon, c'est un petit détail.
Ne m'achèvez pas le doctorat du 19e siècle et du 20e en le comparant au doctorat d'aujourd'hui. Sauf erreur, Michelet a soutenu un doctorat en une année.
Michelet. Bon.
Enfin bref, voilà, c'est une question. Maintenant, à vous la parole.
Pas de questions?
Monsieur, il y a certainement des questions.
Oui.
Voilà.
Pardon?
Il y a deux questions que vous vouliez qu'on vous pose.
Ah oui,
voilà, c'est ça.
Ah, combien de juifs baptisés?
Les juifs baptisés, et puis la première question, pourquoi l'évêque a ordonné, ça c'est la question pratique, je ne réponds plus, 48 prêtres en 1906? Eh bien, c'est simple, comme les congrégations sont interdites, dans le diocèse d'Angers, beaucoup de vocations allaient vers les congrégations. Et il n'y a pas qu'à manger d'ailleurs. Il y a un report vers le clergé de César. Bon, d'accord. Alors, combien a-t-il de baptisés? Question très importante. Très importante. Dans son rapport à Pidouze, il dit 51. Je pense que par la suite, avant qu'il. Jusqu'à ce que. Entre 40 et 43, comme on dit. Ajoutons une cinquantaine, ça fera une centaine. C'est peu ou c'est beaucoup? C'est peu. Le père Théomir de Vaux, des pères de Sion, a baptisé environ 1000 juifs. Et c'est la question perverse que j'ai posée à Lucien Lazare et qui ne m'a pas répondu. J'ai dit, mais dites donc, je suis en bonne relation avec Lucien Lazare. Bon, dites donc, comment se fait-il que le père Théomir de Vaux, qui a sauvé le juif lui aussi, et été fait juste des nations 30 ans après Marie-Benoît, exactement 30 ans après. Alors il m'a dit, c'est très difficile de trouver deux témoins, etc. Je ne sais pas si c'est la vraie réponse. Moi je pense que le fait d'avoir baptisé beaucoup n'est pas un élément favorable. Et alors, donc, je vous renvoie à la lettre à Mgr Ottaviani, qui est tout à fait explicite, concernant la position de Marie-Benoît. C'est un énorme problème, cette question du baptême des juifs, du baptême des enfants. Alors bien sûr, il y avait des baptêmes, des faux baptêmes, hein, de circonstances pour s'échapper. Alors ça, on est tout à fait d'accord. Mais, et puis alors, j'ai aussi posé une question, mais c'est des hypothèses. Il faut distinguer les Israélites français et les juifs polonais. Pensez que Madame Veil, Simone Veil, elle le dit dans un livre récent, raconte que, enfant, son père lui interdisait de rentrer dans une synagogue. Jules Isaac est au moins agnostique. Et combien d'autres aussi? Des Israélites français étaient très intégrés. Edmond Fleg, il a suivi un chemin précocement inverse. Mais beaucoup donc, s'ils découvraient le christianisme en l'occurrence, ils ne changeaient pas de religion, ils n'en avaient pas. Vous comprenez? Je crois que c'est important de distinguer. Par contre, bien sûr, les juifs polonais ou autres, alors là, ceux-là, la plupart du temps, en même temps, religieux. En même temps, religieux. On est d'accord, hein? C'est un point important.
Pourquoi dites-vous israélite français,
juif étranger?
Il y a juif, c'est un peu le bon, israélite.
Oui, mais c'est exactement. C'est
aujourd'hui.
Ah non, mais pour l'époque, c'est l'expression que l'on emploie. Israélite français. Et comme j'ai lu des travaux sur les juifs de France au 19e siècle, par différents historiens, je confirme, on a des quantités de témoignages, en particulier à Paris, attention, hein. Là aussi, il faut distinguer. Les juifs d'Alsace, c'est différent. Mais à Paris, de juifs tellement intégrés, si vous voulez, qu'ils auraient perdu, un autre exemple, un bon exemple, c'est personne, le philosophe personne. L'autre Simone Veil, avec W-E-I-L, autre exemple aussi. Plusieurs de ces Israélites français, très proche du marxisme ou marxiste ou socialiste, n'est-ce pas, et donc détaché du contexte religieux. Et par ailleurs, comme me l'avait bien précisé il y a de très nombreuses années quelqu'un avec qui je suis en très bonne relation, Freddy Raphaël de Strasbourg, Freddy Raphaël, les Juifs d'Alsace différents. Les Juifs d'Alsace différents. Et par ailleurs, on le sait, quand les Juifs de l'Est, les Ossulènes, arrivent en France, ils ne sont pas si bien reçus, même par les Français israélites, qui craignent le refus, c'est très net pour Paris ou autre. Alors que, et voilà, maintenant, la question que vous pourriez poser, pourquoi les Italiens, c'est différent? Eh bien, en Italie, 50 000 juifs en 1940. Même Mussolini, jeune, avait des amis juifs. Ensuite, il a pris le chemin d'Hitler, mais on voit très bien que les Italiens ne suivent pas. Les Italiens n'ont pas du tout cet antisémitisme qui s'est introduit en France et qui s'est répandu en France et qui explique la léthargie d'une partie de l'opinion française pendant très longtemps, n'est-ce pas? Évident. Au tournant de 42, et même après encore. Y compris dans le clergé, je donnais quelques exemples, y compris chez certains capucins. Ils sont pas enchantés, les capucins de Marseille, de voir le parloir encombré, n'est-ce pas? On a une ou deux allusions, ils sont bien contents de se débarrasser de certains. N'est-ce pas? Le sauvetage des juifs, c'est une démarche individuelle, mais bien sûr, appuyée, comme je l'ai dit, par le passage à Rome, me paraît très important. Et Rome, c'est précisément, Rome d'avant 1940, une ville où il y a le Saint-Siège, bien entendu, mais il y a aussi un climat général qui n'est pas d'hostilité et de refus. Les juifs italiens étaient des juifs établis depuis des siècles, très largement intégrés à la nation italienne, qui avaient joué un rôle très important pour l'unité italienne. Alors là, évidemment, avec les catholiques, ça n'a pas toujours été très bon, mais enfin. Autre question?
Oui. Monsieur Lazare, que vous avez fait partie de la famille de Lazare.
Ça, je ne sais pas. Il a été proviseur du lycée René Cassin à Jérusalem. C'est un juif. Je ne sais pas s'il fait partie des. Non, ça c'est pas vrai. Lazare, ça écrit comme ça, Lazare. Il y a un E à la fin. J'attends les impatients
vos
réponses. J'attends avec impatience la recension de mon livre par Michel Lazare. Il a promis. Je ne sais pas ce qu'il va dire. Bon, ben, rien. C'est délicat, hein, je reconnais que j'ai avancé un certain nombre de choses. Bon, évidemment, le père Marie Benoît.
Le dominicain, il n'a rien à dire? Non?
Non. Oui?
Vous avez laissé entendre que c'est parce qu'il était en Italie, ou sous l'influence de l'Église, c'est ça qui les a encouragés à sauter. Si on regarde dans l'ensemble des catholiques religieux, du père, des institutions religieuses en France, je dois dire que c'est pas mal non plus, ils ont sauvé énormément de juifs. Donc,
tout à fait d'accord, mais une prise de conscience précoce de la présence à Rome dès 1920. Voilà, c'est ça, hein, je crois, c'était une présence précoce d'autres ont agi par bon cœur. Non, mais j'ai exploré complètement le dictionnaire des j'ai vu qui avait sauvé. Souvent, on voit des enfants, donc on les sauve, c'est le bon cœur qui explique. Dites, tiens, pourquoi il n'y a aucun avocat dans
parmi les juifs?
Pourquoi il n'y a aucun avocat? Oui.
C'est aussi en France, sur d'autres chrétiens catholiques.
Pourquoi il n'y a aucun avocat parmi les juifs?
Il
y en a, des infirmières il y en a, des associations sociales, ça se comprend, des prêtres il y en a beaucoup, des pasteurs il y en a beaucoup. Il y a une surreprésentation très nette.
Sur le sauvetage des juifs, quand même, je suis désolé.
Moi, oui, je sais. Je sais.
C'est le sens de sa question.
Oui, oui, maître, non, mais j'ai bien compris.
D'accord.
J'ai bien compris. J'ai bien compris. Non, 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 mais je ne veux pas minimiser, je le sais, le rôle des justes en France, qui est important, après tout. La France est un des pays qui a sauvé le plus de juifs. C'est évident, n'est-ce pas? Qui a sauvé le plus de juifs, à part une mobilisation générale, à Lyon et ailleurs, à Marseille, partout, ailleurs aussi, à Paris, aussi, tout simplement, n'est-ce pas? Et bien des gens se sont engagés, proprio motu, parce quoi, n'est-ce pas? Bon, autre question?
Oui. Je voulais savoir quelle était l'ampleur de la correspondance entre Jacques Chartin et le père Marie Benoît.
Rien.
Est-ce que vous avez pas parlé de
la relation? Une lettre de Marie Benoît à Marie Saint, l'inverse, on n'a rien. Vous savez,
ce là, sont connus, donc,
sur cette étude, ça a été très difficile. J'ai fait un gros livre sur Frédéric Ozanam, merveilleux, vous savez. 1500 lettres de Frédéric Ozanam et autant dans l'autre sens. On aurait rassemblé. Mais pour Marie Benoît, c'est pas du tout pareil. D'où, comme vous l'avez vu, des hypothèses multipliées. Donc, ces hypothèses, les recenseurs diront si elles tiennent la route ou pas, n'est-ce pas? Mais non, les Maritains n'ont rien. Or, Maritain, lui remettant la Légion d'honneur à Rome en 46, dit qu'il le connaît depuis longtemps. Il dit, non, mais. On n'a pas la preuve.
Et pourquoi le père Marie Benoît n'a pas été inquiété par les Allemands quand même, qui pratiquent le devoir, non?
Ben alors, c'est ce que j'ai dit, sa dure, sa prestance, c'est autre. Bon, les Allemands, ce serait après novembre 42. Après novembre 42. Là, oui, pendant quelques mois, il échappe. Comment?
Ça a été sportif de leur
échappe. Oui, 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 non, mais d'accord, il échappe, et ensuite, bon, il s'en va en Italie, il aurait pu être inquiété à Rome, d'ailleurs. Hein. Non, mais Rome, c'est difficile, hein. C'est très difficile. Bon, c'est un religieux de belle prestance qui en a cause.
Qu'est-ce qui explique sa présence à Cordoba?
Ce qui explique sa présence,
il est
envoyé, on cherchait. Ah non, mais dans la province de France.
Parce qu'on n'envoyait pas n'importe qui dans cette province.
Oui, elle avait connu de grosses difficultés. J'ai lu des livres de M. Padre Pio et je suis au courant des difficultés très considérables. Vous savez, l'argent est tentateur et les Capucins se sont laissés avoir aussi, n'est-ce pas, semble-t-il, avec tout cet argent que Padre Pio et son aura entraîné. Padre Pio, il n'est pas mis en cause, mais autour de lui, dans la province de Poche, il y a eu grosses difficultés. Donc on a pris quelqu'un de solide, c'est la même chose que pour Tours et pour Boissonnat, d'ailleurs, quelqu'un de solide qui d'ailleurs a eu un grand rayonnement. À Cordoba, on s'en souvient encore.
Je me demande si le président de la Président, sa double institution d'Allemand, fait M. Lille, beaucoup d'historiens, ont écrit que l'hiver devenait un des gros problèmes qui était venu pendant la guerre, mais après la guerre, parce que c'était très difficile pour lui de régler le problème, le plus problématique.
Il y a de ça, C'était différent
qui ont péri à Chaud,
à Chaud. Il y a de ça.
Oui, je remarque c'était à une conférence. Sur le P12,
c'est pas la prestance, une question à
toi. Il y avait trois orateurs, un catholique, un juif, Jean-Serge Tartin. À la fin de la conférence, nous avons été invités par les juifs à applaudir la mémoire de Pie XII, en rappelant, parmi d'autres faits, et je cite parce que c'est pas tout à fait concordant avec ce qui est rapporté de l'opinion du père Pépin sur la Chambre, en rappelant qu'il y avait une proposition à la Knesset après la guerre de planter, non pas un arbre, une forêt de 800 000 arbres qui correspondait à l'estimation de ce que Pie XII avait sauvé par son action diplomatique et son action opérationnelle à Rome. Donc, je le cite parce que ça paraît. On a l'impression que Père Benoît, Marie-Benoît est en retrait par rapport.
Il est en retrait, il est en retrait.
Donc, il y a une discordance.
Il y a
la deuxième remarque qui ressort de cette conférence et qui a été exportée par l'Ambassade française, qui explique que l'antisémitisme en France n'a pas fait autant de victimes que dans le pays, parce qu'il distingue très nettement un antisémitisme intellectuel français. Un antisémitisme racial allemand et d'autres. L'antisémitisme racial aboutissait au génocide, alors que l'antisémitisme intellectuel reculait devant le meurtre. Donc il y avait, même à l'égard antisémite français, on n'allait pas jusqu'à la solution finale. Ça, c'est une remarque que je pense essentielle pour comprendre les réactions du peuple français.
Sur Pie XII, de Marie-Benoît lui-même, pas grand-chose. Ni en bien ni en mal. Pas grand-chose. On pressent quand même qu'il aurait souhaité que le pape a pu voir. Mais attention, il n'est pas question de, semble-t-il, ça c'est l'opinion de l'historien qui parle, de reprocher à Pie XII des paroles prononcées pendant la guerre. Mais c'est au lendemain de la guerre. On a une lettre de Paul Claudel, accablante, c'est pas mal à profil, Paul Claudel. On a une lettre de Jacques Maritain, très sévère aussi, en 45, 46, de François Mauriac. Il dit rien, il dit plus rien. Alors, j'ai une autre hypothèse, promue par hypothèse. C'est la même chose pour. Et mon hypothèse est valable aussi pour la suppression de l'amitié fondée dans les années 20. Le Vatican, c'est l'Église dans le monde entier. Il faut tenir compte du poids que pèsent les patriarches orientaux. Les patriarches orientaux. Je vous donne un petit exemple. Concile Vatican II. Monseigneur Léon Arthur Béchinger, évêque auxiliaire de Strasbourg, intervient pendant le concile pour les juifs. Enfin, celui qui préside la séance, le cardinal Agajanian, patriarche oriental, lui coupe la parole. On le sait par le journal de Monseigneur Béchinger que le père Cibot de Strasbourg vient de publier, que j'ai recensé. Il lui coupe la parole. Et quand il redescend dans l'aula où sont les pères conciliaires, ils s'entendent dire « Et vous en payez combien pour dire cela ?» Donc, on ne peut pas négliger le poids de cela des patriarches orientaux, Maximo V, etc. Je donne quelques éléments. Ça se comprend d'ailleurs. 1920, le patriarche latin, c'est en 22, je crois, il fait une conférence à Rome, ils disent « Les sionistes achètent des terres aux Arabes chrétiens et aux Arabes musulmans, et ce sont des bolcheviques, ce qui n'est pas tout à fait faux. Nous sommes dans les années 20. Ce sont des bolcheviques, et voilà, et on retrouve ce fameux conflit. Alors, concernant Marie-Benoît, vous voyez, je mets les cartes complètement sur la table. J'ai eu des échos de capucins, de vieux capucins, disant il en voulait beaucoup à Pie XII. On me l'a dit. Mais je me méfie un peu du témoignage oral des vieux capucins. Pourquoi? Parce que je sais qu'ils ont été très pro-palestiniens, évident, n'est-ce pas? Dans les années suivantes, ils connaissent la suite de l'histoire, et donc il faut un peu se méfier, n'est-ce pas? Me semble-t-il. Hein? Bon. Qu'il ait pensé que Pie XII n'était pas allé assez loin, mais on a la lettre du 8 juin 1944 qui était irréfutable. Certains. Bon, tout en pensant que pendant la guerre, il valait mieux agir que parler. On sait très bien que
les évêques hollandais de Hollande ayant parlé, les juifs comme Einstein ont été massacrés, et que dès le début de la guerre aussi, à propos des Polonais, tout simplement, Pidouze s'était livré à un discours qu'ensuite il aurait regretté, n'est-ce pas, il a sûrement regretté. Bon, une question très délicate. Il y a pendant la guerre, mais il y a aussi après la guerre. Enfin, ça c'est une question que on arrivera, je ne sais pas si on arrivera à faire la lumière là-dessus.
Dans cette même conférence, c'est aussi Serge Hansen qui disait comme un fait d'histoire établi aujourd'hui que la pièce de Vicaire était un montage.
Ah oui,
tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Bon, eh bien, merci.
Oh, voilà. Et il est important. Thank you.